Victoria. Evan est entré dans ma chambre à 4h14 en demandant instamment à aller au parc. Il a redemandé à 4h33, 4h39, 4h43, 4h58, 5h05 et 5h12. Il est maintenant 5h26 et nous marchons vers le parc. L'aurore est belle. La pluie d'hier au soir a chassé l'excès d'humidité. L'air est chaud mais agréable, comme un baiser sur nos joues. Nous parcourons la demi-douzaine de pâtés de maison, sac de petit-déjeuner à la main, et regardons le soleil transformer l'horizon en un tableau. Situé à l'extrémité la plus orientale du fuseau horaire, le Massachusetts est l'un des premiers États du pays à voir le soleil se lever. J'aime considérer ces aubes précoces comme un privilège accordé à ceux qui, toute leur vie, ne prononceront jamais les R. D'autres États ont une meilleure élocution. Nous, nous avons ça. « Je vois du violet !» dit Evan en montrant l'horizon avec excitation et en courant autour de moi. « Il y a du jaune, de l'orange, du fuchsia !» Fuchsia est un de ses mots préférés. J'ignore pourquoi. Le parc apparaît. Je m'attendais à trouver l'aire de jeu déserte à cette heure-là. En fait, un petit garçon déambule autour de deux portiques et de la monumentale structure de jeu. Sa mère le surveille depuis un banc. J'hésite. Evan se précipite. « Un copain ! Maman, maman, un nouveau copain !» Le temps que je rejoigne l'aire de jeu, Evan a déjà tourné 10 fois autour du bambin avec de grands gestes exubérants. Celui-ci, loin d'être apeuré, sourit de toutes ses dents à Evan comme s'il voyait un clown pour la première fois. Encouragé, Evan dessine des 8 en courant comme un dératé dans toute l'aire de jeu. Le garçon le suit en trottinant. Me voilà reprise par mon optimisme parental. Peut-être qu'Evan va jouer gentiment avec ce garçon. Peut-être qu'ils se plairont l'un avec l'autre. Evan se languit tellement de la compagnie des autres enfants. Peut-être que ça l'incitera à la douceur. Peut-être. Je m'assois à côté de l'autre maman sur le banc. Ça paraît le geste aimable à faire. Bonjour, dit-elle gaiement. Une jeune femme dans les 22-23 ans, avec de longs cheveux bruns coiffés en queue de cheval. Je m'attendais pas à voir quelqu'un d'autre dans le parc à une heure pareille. Moi non plus, reconnais-je en m'efforçant d'afficher un sourire aussi énergique que le sien. Avec un temps de retard, je tends la main. Je m'appelle Victoria, et voilà mon fils Evan. Becky, dit-elle, et Ronald, il a 3 ans. Evan en a 8. Waouh, il est du matin, hein ? S'esclave-t-elle en voyant Evan enchaîner les descentes de toboggan à toute vitesse. Il a déjà envoyé balader ses tongs et court pieds nus. Je me demande dans combien de temps son short bleu foncé et son t-shirt rouge prendront le même chemin. On vient d'emménager dans le quartier, explique Becky. Quand je dis on vient, on a déchargé le camion de déménagement hier après-midi. On n'a pas encore fini de monter les lignes et d'installer les climatiseurs. À 5h du matin, je me suis dit que ce serait aussi bien de sortir. Comme ça, Ronald se dépensera pendant qu'il fait encore frais. Et je pourrais peut-être obtenir qu'il fasse la sieste quand il fera chaud. À côté de l'aire de jeu, il y a un terrain de foot. Et autour du terrain de foot, un petit bois qui sépare le parc des maisons voisines. Evan s'est éloigné du petit garçon et court le long des lignes blanches du terrain de foot. Je m'autorise à me détendre une fraction de seconde, prends une gorgée de café. « D'où arrivez-vous » demandai-je à Becky. « De Caroline du Nord. » « Ce qui explique votre joli accent. » murmurai-je distraitement. Et Becky rayonne en entendant ce compliment. Je m'aperçois qu'Evan n'est pas le seul à se languir de ses amis. Je n'appartiens plus à aucun cercle social. Je n'ai pas de clients, pas de collègues, pas de voisins proches. Je ne fréquente pas les groupes de mamans qui font jouer leurs enfants ensemble ou bavardent à la sortie de l'école. Je croise un aide à domicile 2 fois par semaine et je parle à ma fille de 6 ans 1 fois par semaine. Voilà à quoi se résume ma vie sociale. Je suis contente d'être encore capable de papoter. Qu'est-ce qui vous amène dans le Massachusetts ? Reprends-je de plus en plus dans l'ambiance. Je tends un sachet plastique plein de muffins à la banane. Becky hésite, en prend un. Le travail de mon mari. Il est ingénieur chef de projet. Il est muté tous les 3 ou 4 ans. Vous avez de la chance de tomber sur Cambridge, lui dis-je. C'est une ville très familiale, vous allez beaucoup vous plaire. Merci, dit-elle avec entrain. En toute franchise, j'ai choisi la ville pour ses universités. Maintenant que René a 3 ans, j'espère plus ou moins prendre des cours du soir. Je vérifie de nouveau où se trouve Evan. Il est à la cage de but à l'autre bout du terrain et grimpe sur le filet noir. Ronald l'a repéré et traverse le terrain sur ses petites jambes. Becky le rappelle et le pitchoum fait docilement demi-tour pour revenir vers la structure de jeu. « Désolée, » dit-elle d'un air gêné, « je suis du genre inquiet. » Ça lui arrive de me filer d'un seul coup entre les jambes, alors j'aime pas qu'il s'éloigne trop. Il a que 3 ans pourtant, mais il court sacrément vite. « Je vois ce que vous voulez dire, » lui assurai-je. Evan m'a semé dès l'âge de 2 ans. Les enfants sont tout en muscles et en vitesse, on ne peut pas rivaliser. Elle hoche la tête, mange son muffin. Evan est enfant unique ? Demanda-t-elle finalement. Il a une sœur, elle habite chez son père. Becky me lance un regard mais ne se montre pas indiscrète. Je range les muffins, sors une boîte qui contient des fraises. Vous aurez un autre enfant ? Demandai-je. J'espère. Du moins quand j'aurai fini mes études. L'arrivée de Ronnie a été un peu une surprise. Une jolie surprise, s'empresse-t-elle de préciser en rougissant. Mais j'espérais terminer la fac d'abord. Bien sûr. Evan arpente toujours le terrain de foot. Ronald est revenu à la structure de jeu. J'enlève le couvercle des fraises, je les propose. Ça me rappelle que je dois passer à l'épicerie, explique Becky en mordant dans la fraise qu'elle vient de choisir. C'est où d'ailleurs l'épicerie? Je lui réponds. Et de fil en aiguille, elle en vient à chercher un carnet dans son sac allongé, et j'en viens à greffonner plusieurs plans où je lui indique les meilleurs restaurants, une super librairie, cette boulangerie absolument sublime sur Huron Avenue. J'ai l'impression de dresser la carte de ma vie d'avant. Voilà les endroits où vous devriez faire vos courses, manger, jouer. Voilà les choses que vous, votre mari et vos enfants aimeriez sans doute faire. Cambridge est une ville tellement agréable, qui allie patrimoine prestigieux et branchitude d'Harvard. Peut-être que je pourrais emmener Evan au parc plus souvent. Peut-être que je pourrais retenter le groupe de jeux pour enfants handicapés, ou peut-être la piscine municipale. Evan est assez gentil à la piscine. Nager le fatigue, le distrait. Je pourrais apporter un livre, me détendre au soleil. Je pourrais nous préparer des boissons aux fruits rigolotes, des smoothies à la fraise, des pina coladas sans alcool. Michael et moi sommes allés à Baja une fois et nous y avons bu les meilleurs pina coladas du monde, rhum et jus de fruits frais. On en buvait dès le lever du soleil, allongé sur la plage, en plongeant nos doigts de pied dans le sable blanc et chaud. Victoria ? Perdue dans mon fantasme, j'ai fait l'erreur de me souvenir des jours meilleurs, de vouloir sortir de cette cage dans laquelle je vis. Les accents suraigus de Becky me ramènent sur terre. J'arrête de dessiner un plan qui montre comment aller au meilleur café, je regarde l'air de jeu. Il ne me faut qu'une seconde pour comprendre cette angoisse dans la voix de Becky. Evan et le petit garçon ont disparu. Je commence par les lieux communs habituels. Ils n'ont pas pu aller bien loin, nous ne les avons quittés des yeux qu'une minute. Et si elle regardait du côté de la rue? Je vais d'abord aller voir dans les bois. Docile, Becky part en toute hâte vers le trottoir désert. Je file droit vers les bois en appelant Evan et Ronnie. Rien. Mon cœur bat trop fort. Mon souffle se fait court. Peut-être que les garçons jouent à cache-cache. Peut-être qu'Evan a vu Ronnie se sauver et qu'il est parti à sa rescousse. Peut-être que quelque chose les a intrigués. Ça arrive avec les garçons. Avec certains, en tout cas. Je longe l'interminable lisière du bois à petite foulée et j'appelle, j'appelle, j'appelle. Rien, rien, rien. Alors je pense à des choses auxquelles une mère ne devrait pas avoir à penser. Ces deux jeunes garçons au Royaume-Uni qui avaient convaincu un bambin de partir avec eux du centre commercial et qui l'avaient tué à côté de la voie ferrée. Et puis une autre affaire beaucoup plus près de chez moi. Deux adolescents qui avaient assassiné un petit garçon de 7 ans en lui enfonçant du gravier dans la gorge parce qu'il ne voulait pas qu'il dise à ses parents qu'il lui avait volé son vélo. Ou encore cet enfant de 6 ans qui avait mis le feu à un autre de 3 ans. Ou celui qui avait tué sa voisine d'une prise de catch et caché son corps sous son matelas. Je parcours toute une longueur de terrain, puis la largeur, puis l'autre longueur en appelant les garçons. Les bois ne sont pas si profonds. J'aperçois les toitures des maisons voisines à travers les branchages verdoyants. Le matin est calme, les bruits de la circulation en sourdine, les garçons devraient pouvoir m'entendre. Ronnie, au moins, devrait répondre. À moins qu'Evan ne l'en empêche. Mon pouls s'affole, des étincelles dansent devant mes yeux, je vais m'évanouir. Pas le moment de s'évanouir. Réfléchir, réfléchir, réfléchir. Evan ne répond pas. Pourquoi ne répond-il pas? Parce qu'il ne veut pas que je le trouve, parce que c'est Evan, qu'il joue à un jeu quelconque et qu'il ne veut pas s'embêter avec moi pour l'instant. Il veut n'en faire qu'à son idée et Dieu sait ce que ça peut être. Une motivation. On en revient toujours là quand on est parent. Evan ne répond pas parce que calmer ma peur, ma panique, mon affolement n'est pas assez motivant pour lui. Il lui faut mieux. « Petit déjeuner !» lançais-je comme si c'était un matin comme les autres. Il se trouve que Becky et moi arpentons le terrain de foot en tous sens à la recherche de nos enfants disparus. « Muffin à la banane, fraises, allez, qui a faim ?» Becky reprend l'antienne et nous longeons toutes les deux la lisière du bois. « Petit déjeuner, muffin et fraises, allez les garçons, il se fait tard !» À la voix de plus en plus aiguë de Becky, je devine que les minutes passant, elle commence à paniquer. C'est une chose de perdre son gamin 30 secondes, c'en est une toute autre de ne toujours pas l'avoir retrouvé après plusieurs minutes de recherche active. Ça ne marche pas. Evan ne lève pas le petit doigt pour les muffins à la banane. Il me faut mieux. Je reviens vers Becky et la fais pivoter de manière à ce que nous tournions le dos au bois. Evan joue parfois à ce jeu, expliquai-je en me demandant si ma voix lui semble aussi grêle et forcée qu'à moi-même. Il se cache et refuse de se montrer sans raison valable. Quoi ? S'étonne-t-elle, manifestement inquiète. Vous avez un portable ? Oui. Elle le sort de sa poche, je le prends et je compose mon numéro. Je vais courir jusqu'au bout du terrain, dis-je, et ensuite je veux que vous appuyiez sur la touche d'appel, sans regarder votre téléphone, sans avoir l'air de passer l'appel. Dès que j'aurai décroché, vous pourrez raccrocher. Becky semble perdue, mais elle accepte, obéissante dans sa peur, désireuse que quelque chose, n'importe quoi, ramène la situation à la normale. Elle part vers un bout du terrain, toujours en criant « Ronnie !» et moi vers l'autre. Je m'efforce de ne pas tripoter mon téléphone et de ne pas avoir l'air d'attendre un appel. Evan peut être très perspicace. 30 secondes plus tard, mon téléphone sonne. Je ne me jette pas dessus. Je laisse passer 1 ou 2 secondes. Ensuite, je le sors ostensiblement de ma poche. Je consulte l'écran. Je le porte à mon oreille. « Bonjour, ma chérie. » Ma voix ne fait toujours pas naturelle. Peut-être que ce n'est pas grave. Je cherche mon fils disparu, alors c'est normal que je sois encore un peu stressée. « Tu veux parler à Evan ? Je ne sais pas où il est, mon cœur. »« D'accord, je vais voir. » J'éloigne le téléphone de mon oreille et j'appelle. « Evan ! Chelsea au téléphone ! Evan, ta sœur t'appelle !» Je traverse le terrain. Je recommence ma petite comédie, alternant entre conversations fictives sur un téléphone raccroché et appel à Evan pour qu'il vienne répondre à sa sœur. Becky ne cherche plus. Postée près de l'aire de jeu, elle m'observe sans rien faire. Elle commence à comprendre que ses nouveaux amis ne sont pas aussi normaux qu'ils en ont l'air. Qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous et que ce quelque chose pourrait lui faire du mal. « Chelsea doit raccrocher !» finis-je par dire. « Allez, Evan, maintenant ou jamais, c'est ta sœur !» In extremis, au moment où j'allais renoncer, un buisson frissonne au bout du terrain de foot. Evan apparaît. Il se tient devant le buisson, une main sur l'épaule de Ronnie. Le petit garçon pleure sans bruit comme font les enfants lorsqu'ils sont totalement terrifiés. Il n'essaie pas de s'éloigner d'Evan, mais reste sur place, le t-shirt déchiré, le visage souillé de boue, les cheveux emmêlés de brindilles. « Chelsea ?» demande Evan. Je regarde mon fils dans les yeux, tends le téléphone sans hésiter. « Chelsea !» confirmai-je. Evan lâche Ronnie. Le petit garçon se précipite vers sa mère, qui le prend immédiatement dans ses bras protecteurs. Evan s'approche de moi et attrape le téléphone. Il ne le tient qu'une seconde contre son oreille et me le rend. « Tu m'as menti ? Pourquoi as-tu emmené Ronnie ? Tu m'as piégé ? Pourquoi as-tu emmené Ronnie ? Mon ange de fils me sourit. Je te le dirai jamais. » Je lui donne une claque. J'ai vaguement conscience d'entendre un hurlement. « Becky !» me dis-je. Je me rendrai compte seulement plus tard que c'était moi. Becky n'appelle pas la police. Elle devrait peut-être. Mais Ronnie, toujours serrée sur sa poitrine, elle attrape le sac allongé et quitte le parc en 4e vitesse. Les plans que j'ai dessinés ne seront jamais arrivés jusque dans son sac. Son départ précipité les éparpille dans l'air de jeu. Je les regarde voltiger. Les plans de ma vie d'avant. À côté de moi, Evan sanglote, tient sa joue rougie. Mon geste de violence inattendue la saisit, transformée en un enfant de 8 ans désorienté et brutalisé par sa propre mère. Je devrais m'en vouloir de ce que j'ai fait. Je devrais éprouver des remords, un sentiment de culpabilité. Mais je n'éprouve rien, rien du tout. Un moment passe encore et je retourne au banc. Je remballe les muffins, les fraises, mon thermos de café. Je range chaque objet dans mon sac à fleurs en calant tout bien. Je vais au toboggan, ramasse les chaussures d'Evan, les pose soigneusement au-dessus des boîtes. Evan ne pleure plus. Les épaules voûtées, il tient son petit visage dans ses mains et hoquette comme un malheureux. Je pourrais l'abandonner. Je pourrais passer mon sac sur mon épaule et partir sans me retourner. On retrouverait Evan. Les autorités, ne parvenant pas à me joindre, appelleraient son père. Michael pourrait le reprendre. Ça ferait plaisir à Evan. Je pourrais marcher jusqu'au Mexique, boire une piña colada, enfoncer mes doigts de pied dans le sable. Je me demande à quel point l'eau serait chaude dans cette saison. « Maman, Jean et Evan. Maman, je veux rentrer à la maison. » Alors nous rentrons à la maison, où je nous donne du lorazépam à tous les deux et où nous nous endormons. Plus tard, 3, 4, 6 heures plus tard, difficile à dire, Evan regarde Bob l'éponge sur le canapé. Je me cache dans la cuisine et compose un numéro que je ne suis plus censée composer. Nous faisons une pause. Il avait besoin d'un peu de temps. Les choses avaient pris un tour bizarre le mois dernier. Une fois, il m'avait même fait peur. À présent, rien de tout cela ne semble plus compter. Ni ce dernier épisode où ses yeux s'étaient transformés en trous d'eau noire et où j'avais senti mes cheveux se dresser sur ma nuque. Ni le timbre étrangement guttural de sa voix quand il m'avait annoncé qu'il devait partir. Il avait une chose à régler, mais il m'appellerait lundi. Il aurait une surprise pour moi lundi. Nous sommes samedi après-midi. Lundi est dans 48 heures. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. J'ai besoin de lui. Dieu, que j'ai besoin de quelqu'un. Ça sonne. Une fois, deux fois, trois fois. Je manque de raccrocher, et là, allô? À l'instant où j'entends sa voix profonde et grave, je suis submergée. Le stress, la terreur, la peur sans relâche. Non pas que mon fils me tue, mais que, malgré mes efforts, il fasse du mal à quelqu'un d'autre. Les années passant, il est de plus en plus grand, fort, intelligent. Combien de temps puis-je tenir? Combien de temps avant qu'il ne gagne à son petit jeu? Le barrage cède. Je fonds en larmes et, une fois que j'ai commencé, je ne peux plus m'arrêter. « J'y arrive pas », sanglotais-je au téléphone. « J'y arrive plus. Je suis pas assez forte. » Chut, dit-il d'une voix apaisante. Je vais t'aider, Victoria. Bien sûr que je vais t'aider. Allez, respire un bon coup et raconte-moi tout.